Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, une émission sur l'art magique exercée par Dominique Duvivier et également sa fille aussi, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes en juin 2018, c'est important de le préciser. Et nous sommes avec Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Lionel.
Comment allez-vous?
Mais
Bon.
bien.
Ah, alors c'est une bonne chose. Parce que j'aimerais rentrer dans le vif du sujet tout de suite.
Mais c'est bien, on est là pour ça.
Donc, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est un spectacle qui s'appelle Magie Parallèle 2. Et au sein de Magie Parallèle 2, vous faisiez une routine qui m'a paru intéressante, sur laquelle je voulais revenir, qui s'appelle la routine de la veste, noir, transparent, pied de poule, etc.
Exactement.
Voilà. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu déjà, est-ce que vous pourriez décrire
Le
le
sketch.
pitch, voilà, de cette routine?
En gros, c'est un mec qui arrive sur scène, c'est-à-dire le mec, c'est moi. Il a une veste avec des poches plaquées, mais c'est un peu grossier, quoi, tu vois. Mais les gens vont rien dire parce que bon, bah, tu t'habilles comme tu veux, les gens vont être bien élevés, donc tu vois, ils vont rien dire. Enfin bon, ils doivent noter que ta veste, elle est un peu zarbi, quoi, on va dire. Mais bon, donc le magicien que je suis, tu vois, je ne veux pas parler de moi à la troisième personne, mais on parle du sketch,
Bien
donc tu vois,
sûr.
donc la personne est, évidemment, c'est moi. Donc je ne parle pas de moi à la troisième personne, mais je décris le personnage. Hein. Et le personnage, donc, c'est un mec assez radin. On va le comprendre au fur et à mesure, et c'est important par rapport à l'idée du sketch, au pitch. Donc il est assez radin. Il mélange les cartes, mais très peu, parce que ça les use, et il le dit. Il trouve magiquement les cartes dont il a besoin. Et au lieu de les faire signer en plein, il les fait signer sur des gommettes. Parce qu'il explique qu'en gros, c'est plus économique. Hein. Donc il y a tout un jeu comme ça, quoi, hein, qui s'instaure avec le spectateur. Il explique les faits avant. En principe, dit-il, on dit jamais les faits avant. Parce que le magicien, il a peur, éventuellement, qu'on comprenne son subterfuge. Et lui, autant il est radin que par contre il est sûr de lui, donc ce qui le rend un peu désagréable, comme il faut, puisque ça fait partie du jeu, aussi du sketch, du pitch. Et il dit les faits en expliquant que les cartes, il y a une partie des cartes qui vont être sur la table, et le reste des cartes vont être disséminées dans les quatre poches qu'on voit très bien, puisque la veste. On voit que ça dans la veste. Parce qu'il n'a pas peur. Bon. Et à partir de là, il prend conscience que les gens peuvent croire qu'il va y arriver, mais que par contre, sa veste, c'est une usine à gaz, dit-il. Et non. La preuve, c'est que vous pouvez examiner les poches. Et là, il arrache. Donc en fait, les poches, c'est des scratchs. Il arrache les quatre poches et il les donne à examiner. Puis il arrache les revers, puis il arrache les manches, enfin il arrache toute sa veste, ouais, ça devient un lambeau sa veste. Mais tout ça pour faire examiner dans des conditions de laboratoire la veste avant de commencer le tour. Donc c'est assez amusant, c'est un peu cocasse, on n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Et là il explique en récupérant les bouts que ça a pris 15-20 secondes maximum pour détruire la veste, parce qu'elle est vraiment détruite. Par contre, pour la remettre comme il faut, ça va prendre un certain temps. Et ça, les gens le supposent parce que elle est vraiment ruinée, quoi, la veste. Et là, il dit, vous inquiétez pas, je suis quand même magicien, je vais vous montrer comment on peut restaurer la veste en un tour de main. Ah, les gens sont intéressés. Et en fait, il s'en va en coulisses et il revient. Alors évidemment, c'est ridicule, parce que s'il part en coulisses, c'est facile de changer de veste, quoi. Sauf que il revient, mais avec une veste pied de poule, alors que l'autre, elle était toute noire, unie, tu vois, très sobre. Et là, d'un seul coup, c'est une veste pied de poule, très criarde. Puis là, il explique qu'il est un peu emmerdé, parce qu'en gros, son assistante lui a donné la mauvaise veste, parce que d'habitude, il a la veste qui est la même, mais remise d'équerre, et ça a un effet fort, même s'il ne se rend pas compte que c'est pas plus fort, même si elle était mise d'équerre, parce que c'est très facile d'avoir changé de veste, quoi. Mais bon, lui, il est dans son rêve, le mec, tu vois. Mais de toute façon, il a une veste pied de poule maintenant. Et dans sa veste, il a des foulards. Et il fait fouiller un spectateur dans la poche. Et il fait sortir des foulards. Puis il a aussi une quêteuse à la main. Donc c'est ridicule, tu vois, avec une baguette magique ridicule qui sort de dedans. Bon, c'est un peu un clown, quoi, tu vois, le mec. Et il parle un peu de cette quêteuse, un peu ennuyé de la voir, mais en même temps content parce que bah il l'a, quoi, hein, de toute façon. Et puis voilà, et puis tout va s'instaurer autour de ça. Il va se passer plein de choses avec cette quêteuse et cette baguette magique. Et puis pour finir, pour pas raconter 1 heure, hein, pour finir. On va se rendre compte que la veste, elle est réduite en petit format, parce qu'il a fait une photo soi-disant en 3 dimensions. Mais évidemment, elle est toute petite, la veste. Mais n'empêche qu'elle est à l'échelle exacte de la veste qu'il a en pied de poule. Et là, on voit sur la petite veste qu'il n'y a pas de poche. Et il dit que c'est la reproduction exacte de la veste qu'il a lui, sur lui, pour l'instant. Et là, il se lève parce qu'il était assis à ce moment-là. Et on voit effectivement que la veste qui a été fouillée par le spectateur, elle n'a pas de poche. Donc, ce qui est très étonnant, tu vois, qui est très fort. Et puis bon, bah, il repart en coulisses, il revient cette fois avec une veste transparente, en disant, bon, c'est un peu ridicule puisque c'est pas encore la mode, mais par contre, c'est très pratique pour voir les poches. Effectivement, là on voit bien les poches, puisque la veste elle est transparente. Et là il va faire effectivement ce qu'il a dit 1 heure plus tôt. Bon, je dis ça en rigolant, parce que évidemment ça ne dure pas 1 heure. Enfin, c'est un sketch qui dure bien 15 minutes, mais qui est drôle. Drôle et fort. Parce qu'il va effectivement dire enfin, faire exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire il y a 4 cartes qui vont rester sur la table qui sont signées. Et il y a les 4 autres qui sont signés aussi, qui vont dans les poches, clairement. Et il va y avoir une vraie transposition du tout. Et après, on donne à examiner la veste transparente. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture générale du sketch que j'ai fait.
Alors, c'est intéressant parce que pourquoi je voulais vous faire parler de ce sketch-là, moi il me semble intéressant parce que en fait, il fonctionne par palier. Au départ, le magicien arrive, enfin le personnage même, quelque part, arrive. On voit bien que sa veste, elle est pas normale, mais personne ne dit rien. Donc
Personne n'ira rien, mais.
c'est ça commence doucement, quoi.
Oui.
Et c'est ça que j'aime bien avec ce sketch, c'est que petit à petit, on passe quasiment du premier, deuxième degré, où on se dit, bon, c'est un peu quand même incongru, voire pas très élégant cette veste. Et puis, à un moment donné, comme vous le dites, 5 minutes après, 10 minutes après, il se transforme en clown, mais à son insu.
Tout à fait. Ouais, bah c'est. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses de ma magie là-dedans.
Oui.
Parce qu'il y a à la fois vraiment le mec qui ne se prend pas au sérieux, à mort. En même temps, il est très sérieux d'un point de vue. Et ces 2 niveaux opposés vont souvent se mêler dans ma magie, tu vois. Espèce de causticité que j'ai, et en même temps cette bonhomie, cette sympathie, et en même temps ces trucs un peu absurdes, tu vois, genre le mec il s'en va en coulisses, qu'est-ce qu'il espère, tu vois, s'il s'en va, c'est un peu comme si on éteint la lumière et qu'on la rallume 2 minutes après, bon, bah, il a eu le temps de faire quelque chose, tu vois. Mais lui, il est. Il n'est pas conscient de ça,
Ouais.
tu vois. Il est juste victime en plus qu'on lui a donné une mauvaise veste. Et il pense que si on lui avait donné la bonne, là, ça l'aurait fait, quoi. Alors qu'évidemment que ça ne l'aurait pas fait plus.
Oui, il y a une espèce de naïveté,
Oui,
oui.
moi j'aime bien ça. Et en même temps, après, le tour, les cartes à la poche, c'est très fort.
Oui, tout à fait.
Puisque j'étais parti d'un tour de Marlowe, où il faisait 23 000 empalmages et enlevages différents et variés. Et moi, mon challenge, ça a été d'inventer une méthode, puisque moi, je n'ai pas inventé les faits, hein, les cartes à la poche telles quelles, c'est l'effet que j'ai vu de Marlowe, qui n'était d'ailleurs pas de lui non plus, qui était d'un autre magicien, j'ai oublié le nom. Mais moi, j'ai travaillé sur la manière de pouvoir faire sans empalmage du tout. Et pourtant, on fait vraiment un vrai voyage de quatre cartes qui se transposent avec quatre autres.
Et en enfin
Instantané,
ouais,
ouais.
instantané, ouais,
Et je
absolument.
pense sans qu'on sente quoi que ce
Ouais,
soit.
vraiment. C'est ça l'un des trucs, si je puis dire, de votre magie, c'est là, ça a été d'élaguer
Oui.
tout ce qui pourrait.
Ben, moi, ça fait partie, même si je sais faire des empalmages et des enlevages latéraux, j'ai appris ça dans ma jeunesse, je dirais, et j'en ai fait beaucoup, jusqu'au jour où j'ai eu vraiment le sentiment profond, bah, que c'était pas intéressant, ça, comme magie, tu vois. Parce que même les experts, ceux qui continuent d'en faire, moi je suis désolé, mais moi, où je les vois faire, où je sens qu'ils le font, ou si je sens pas qu'ils l'ont fait, je sens que c'est pas net l'histoire. Tu vois? C'est très 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 rare pour dire jamais que je vois quelqu'un où j'ai pas vu, pas senti, pas supposé, alors qu'il vient de faire un empalmage quelconque. Tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai travaillé cette routine comme ça. Parce que ça ne me satisfaisait pas d'empalmer les cartes. Puis évidemment que l'empalmage te permet des miracles. Le problème, c'est que si le spectateur se dit, oh bah, de toute façon, je ne sais pas comment, mais il l'a mis dans sa poche ou dans le portefeuille, c'est un peu foutu quand même. Tu vois? Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se dit.
Et, mais il faut avoir une certaine, comment dire, un certain recul quand même sur ce qu'on fait pour pouvoir en arriver à se dire, malgré le fait que je maîtrise la technique, que je me suis ennuyé comme c'est pas possible à l'apprendre, à la manipuler, à la faire, à la réviser, ben, en fait, je vais faire autre chose.
Ouais, bah ouais, peut-être, c'est du recul, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, par-dessus tout, c'est le rendu pour le spectateur, c'est l'entertaining, l'entertainment. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens, ils passent un moment super agréable, qu'ils se marrent, qui, en même temps, qu'ils passent par des émotions, éventuellement même, pourquoi pas, qu'ils pleurent. Ça m'est arrivé d'arriver à faire pleurer les spectateurs. Avec des moments un peu du temps suspendu, quoi, tu vois. Mais évidemment, ça m'arrive plus souvent de les faire marrer que de les faire pleurer, hein. N'empêche que dans tous les cas, ce que j'ai envie, c'est que le spectateur n'ait pas de piste, ou le moins possible. Et si une des pistes, c'est qu'il pense que, ben, on revient, puisque là, on est en train de parler de ce sujet-là, s'il pense que j'ai empalmé pour arriver à mes fins, alors là d'autant plus, hein, puisque tu as des cartes qui sont sur la table, on les montre, et tu en as quatre autres que tu mets dans les poches, et celles que tu mets dans les poches vont être celles qui sont sur la table. Bon, alors que tu le dises ou non, c'est quand même ce qui va se passer, hein, c'est l'effet. Ben là, il faut drôlement être pointu pour qu'on ne voit pas et qu'on ne sente pas et qu'on ne suppose pas, parce que c'est quand même ce que tu vas faire. Hein. Ben moi, je suis désolé, mais quand j'ai vu Marlowe faire ça, ça ne m'a pas du tout étonné. Hein. Quand je vois Larry Jennings, qui, à mon avis, est 10 fois plus fort que Marlowe à son époque, dans les empalmages, justement, je les vois pas, hein, ça c'est clair. Mais je sens quand même des choses. Et je dis pas ça pour dire Larry Jennings, s'il est pas bon, moi je suis meilleur. Loin de là, moi je pense qu'on peut pas y arriver, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça.
Tu vois, moi je pense que c'est pas possible.
Ouais. Pas possible comme ça, quoi.
Voilà. Je pense que bien sûr qu'on y arrive. Et les gars, Hollywood et plein d'autres le font, et le font plutôt brillamment. Mais on sent quand même, tu vois. Moi, je trouve qu'on sent. Donc, comme j'avais pas envie qu'on sente, j'ai essayé de trouver autre chose pour pas qu'on sente. Parce que oui, j'ai travaillé les techniques, je les ai peut-être pas travaillées aussi bien que Jennings, Hollywood ou d'autres, parce qu'il y en a plein, hein, des mecs qui font...
Dingle, par exemple.
Voilà, Derek Dingle, qui était un expert absolu dans ce genre de technique, très rompu dans ce genre de technique. N'empêche, pour moi, c'est pareil que le saut de coupe. Hein. Saut de coupe, c'est... Il y a des gens qui font le saut de coupe divinement bien. Mais enfin, on sent, quand même. Pour la bonne raison, c'est qu'en principe, quand tu fais un bon saut de coupe, si tu fais un saut de coupe parfait, tu devrais n'en rien faire, mais tu ne peux pas rien faire, puisque, par définition, le saut de coupe, c'est faire quelque chose.
En effet.
Faire sauter la coupe, c'est un peu le terme, tu vois. Donc, à partir de là, comment faire un saut de coupe sans avoir fait de saut de coupe?
Ouais.
Puisque le vrai problème, c'est quand même de faire le mouvement. Alors, tu vas me dire, c'est pas un mouvement énorme. Mais enfin, n'empêche que tu fais un mouvement.
Ouais. Absolument. Et souvent, à des moments où...
Alors après, je pense que quand tu es un expert ou quand tu es un technicien vraiment hors pair, tu passes outre ça. Parce que moi, je suis passé outre aussi, hein, pendant que j'en faisais, la technique vraiment technicienne, dans les années, on va dire, 70-90.
Ouais.
Hein, et c'est à partir de 90 ou 85... que je me suis dit non, ça va pas.
Ouais.
Mais pendant un certain nombre d'années, une bonne décennie, j'ai travaillé en me disant que c'était bien. Parce que, qu'est-ce que tu peux te dire quand tu fais de la technique? Et comme j'en ai fait, je peux te le dire, ce que je me disais, et je pense que je suis pas très éloigné de ceux qui en font, ou qui en ont fait, c'est que peut-être on peut sentir, mais on pourra pas remonter.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est clair.
Ouais, c'est vrai.
Donc comme on ne peut pas remonter ce qui se passe, on part du principe que du coup on n'a pas senti.
Ouais.
Oui, mais non, parce que ça n'empêche pas que tu puisses sentir, même si tu ne comprends pas comment.
Ouais. Et si tu ne peux pas remonter, même si tu ne peux pas remonter, l'effet magique on prend est dégradé.
Je pense, c'est pour ça que moi je suis pour l'économie de gestes au maximum, où on fait le minimum de choses. Si on peut ne rien faire ou presque, c'est parfait.
Ouais.
Alors peut-être, oui, c'est beaucoup de... On parle même pas d'heures, c'est beaucoup d'années ou décennies de travail pour en arriver à cette conclusion. Mais n'empêche que je crois que plus tu fais quelque chose qui est entre guillemets miraculeux, genre apparenté au miracle, et que tu as quasiment pas touché l'objet que tu viens de transformer, par exemple, je crois que là, on rentre dans la fascination du spectateur. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, le magicien, où il est fasciné quand il voit un expert, c'est quand il est à ce stade où il se dit, c'est pas possible, il n'a pas pu faire la chose.
Oui.
Donc, mine de rien, on en revient un peu,
oui.
Même si c'est pas au premier degré, mais au 2-3e degré, la haute technicité, c'est quand même qu'il n'y ait pas de technicité,
oui.
Du moins apparente, qu'il n'y ait pas de geste perturbateur. Tu vois, moi, quand je vois quelqu'un, même s'il le fait super bien, qui va montrer, par exemple, une pièce de monnaie, il monte sa pièce, il a fait disparaître dans ses doigts, et maintenant, il va s'ingénier à te montrer sa main vide, mais où tu sens quand même, il y a quand même des doigts qui sont bizarres, quoi. Tu vois? Bon, ben moi je trouve que ça vaut pas le coup de se faire chier à faire ça, quoi. Parce qu'on va quand même rentrer dans la catégorie jonglage, parce que le spectateur, il sait pas comment, il trouve ça très beau, mais je crois pas qu'il se dit, il y a plus de pièces, elle s'est dissoute.
Ouais, c'est ça.
Je crois pas. Bon, c'est mon point de vue, et je dirais, je le partage, et je pense. Hein, parce que là, on est en plein podcast. Je suis pas en train de dire, même si c'est ce que je dis, qu'il ne faut pas faire ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Moi, je le dis parce que je suis un artiste, un magicien, avec une pensée propre.
Ouais.
Comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup de magiciens ont une pensée propre. Et je pense qu'il est normal de pas sans arrêt avoir une langue de bois. Être dans le politiquement correct, moi, ma pensée est celle que je dis. Mais ça ne veut pas dire que je chie sur ceux qui font autrement. Moi, je ne suis pas d'accord, pour moi. C'est pour ça que je m'appelle Dominique Duvivier.
Et c'est pour ça que vous êtes artiste, c'est
Oui,
enfin.
je pense comme ça. Mais ça fait belle lurette que, même si là, je critique quelque part, je critique parce que moi, j'ai travaillé autrement. Mais ceux qui font autrement ne se grattent pas de me critiquer, hein, aussi. Donc chacun critique chacun. Mais je pense qu'il est normal, et d'ailleurs, je vais même encore plus loin, si je n'avais pas travaillé la technique vraiment, je ne pourrais pas te dire ce que je pense là aujourd'hui. Je pense qu'il était nécessaire pour moi de travailler la technique pour m'en sortir ou en faire une autre technique. Mais j'aurais pas fait cette technique-là, la technique classique. Je pense que je ne pourrais pas faire illusion en faisant d'autres techniques. Tu vois?
Ouais, je comprends.
Donc ça veut dire qu'il faut faire de toute façon les deux, au minimum. Hein?
Ça a été un processus en fait.
Oui, bien sûr. Parce que moi j'étais très heureux quand je travaillais avec certains magiciens, la technique technicienne. Et qu'on s'en foutait royalement des effets, et c'était surtout les méthodes qui comptaient. Et on se mettait dans un certain angle. Et là, tu vois, non, là, tu vois pas. Là, tu vois, ah oui, là, tu vois. Et là, tu vois pas, là. Ah, ça y est, on avait trouvé l'angle où on pouvait faire la technique sans qu'elle soit vue. Donc, c'est ce qu'on appelle des tours à angle. Bon, bah, moi, je trouvais ça génial de faire des tours qui fonctionnaient que dans certains cas. Bah pourquoi pas?
C'est intéressant.
Bien sûr, c'est très intéressant. Sauf que quand tu commences à devenir vraiment professionnel et que tu commences à faire des spectacles, bah tu te rends compte que tu as de moins en moins le temps de faire des tours à angle, parce que tu fais des tours pour tout le monde, pour une salle complète. Même si moi, souvent, je travaille pour 50, 60 ou 100 personnes, moi, c'est un peu mon format, hein, j'aime bien. Je m'y trouve bien dedans. N'empêche que quand tu as 50 ou 100 personnes devant toi, tu peux pas faire un truc à angle qui est super bon pour une spectatrice ou un spectateur. Donc petit à petit, tu les ranges et tu cherches des choses qui vont être bonnes pour ta salle complète.
Bien sûr.
Donc tu changes d'axe petit à petit. Tu vois?
Changer d'axe. Bah, ce que je vous propose, c'est d'étudier des axes différents et d'autres axes au sein d'un prochain podcast. Dominique, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais ça me paraît une bonne idée.
Moi aussi. À bientôt.